N'as-tu jamais entendu dans cette jour, le jour, le jour, le jour, les cris et les plaintes des forces à modèle à propos crier dans cet univers des humanisés, les murs de les portes n'auront plus d'oreilles. La souffrance et le supplice sont vraiment double, 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 double. Quand vous pouvez cantiner, je dois vous l'honner. Mais quel est le goût de votre prétendue de liberté, celle qui tous les jours vous envoie bosser? Il arrivera le jour de la belle, 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 où je démolirai vos pauvres et barons. Fini le rigole, mes amours et les lourdes peines, alors enfin libérés, nous ferons tout brûler.
Bruit de tôle, une émission qui veut agir pour la suppression des prisons et pour la remise en cause du principe de punition et de contrôle. Nous voulons nous attaquer aux murs, plus ou moins visibles, des institutions qui diffusent l'enfermement et la soumission dans tous les plis de la société, comme la famille, l'école, l'hôpital, les maisons de retraite, celles de la culture et bien d'autres. Le système judiciaire resserre les taux sur les pauvres et les insoumis, les classes dangereuses en somme. Il enferme de plus en plus tôt, sous prétexte de délinquance juvénile, de plus en plus souvent, en allongeant la liste des délits, et pour des peines de plus en plus longues. Et malgré une croyance tenace qui veut que la prison soit toujours réservée aux autres, la menace permanente qu'elle laisse planer sur l'ensemble de la population entretient la peur et la soumission. Longtemps tabou, la prison est devenue un sujet médiatique à la mode pour spécialistes de toutes sortes, sociologues, médecins, criminologues, politiques, occultant toujours la parole des personnes enfermées. Bruit de tôle se veut un espace de réflexion sur les enfermements, un lien entre l'extérieur et l'intérieur des murs. Ce que nous voulons, c'est mettre en évidence les rouages d'un ordre social qui prétend gérer nos vies, nous soumettre à l'État et désamorcer, assimiler, digérer toute déviation, colère ou révolte. Nous rêvons d'une société sans maître ni esclave, sans coupable ni victime, sans juge ni condamné.
Vous écoutez Bruit de tôle sur Canal Sud 92.2 en direct le jeudi de 19h à 20h et en rediffusion le vendredi de 17h à 18h. Donc bien que ce soit l'été, on n'a pas d'actualité et nous allons revenir sur celle des révoltes dans les centres de rétention, les fameux CRA, et sur la dissolution du Génépi, association qui est longtemps intervenue en prison. Nous continuerons avec des témoignages de prisonniers et de détention provisoire et nous vous parlerons également des conditions de détention exécrables dans la maison d'arrêt de Saïs. Donc nous allons bientôt commencer. Vous pouvez nous appeler pendant l'émission au 05 61 53 36 95, de préférence pendant les pauses musicales.
Downtown, all around the river, there's a party pan block, running around the pond. There's a party gonna make it hot for you river. We are conscious men, we know what to do. We're on stage every night and we play just to prove our talent's true. We know the road is foggy and the load is heavy. We know the road is foggy, so but we are solid believers. And we rule the dance floor. We rule the dance floor. We rule the dance floor. So come on, come on. We rule the dance floor. We rule the dance floor. We rule the dance floor. Come on, come on, come on. Come on.
we're gonna make it hot. Hunting that eagle, we're gonna make it hot. So we start from the bottom, we're gonna reach the top. So we start from the bottom, we're gonna reach the top.
Commencer avec un communiqué de l'Observatoire de l'enfermement des étrangers qui revient sur les révoltes dans les centres de rétention. Des personnes étrangères, à qui on reproche seulement d'être dépourvues de titre de séjour, sont enfermées dans des conditions désastreuses qui ont encore empiré avec la crise sanitaire. La seule réponse à la légitime révolte de ces personnes a été une répression violente par les forces de police. Le mouvement de révolte qui a éclaté ces derniers jours au CRA, centre de rétention administrative du Ménil-Amelot, met une nouvelle fois en lumière les conditions désastreuses dans lesquelles des personnes étrangères, à qui on reproche seulement d'être dépourvues de documents de séjour, sont enfermées dans ces lieux de privation de liberté. Des conditions qui ont empiré avec la crise sanitaire, notamment depuis l'automne 2020. La seule réponse à la légitime révolte de ces personnes a été une répression violente par les forces de police. Les tensions se sont encore aggravées depuis que l'administration oblige les personnes en instance d'éloignement à subir un test PCR afin de pouvoir les expulser vers les pays qui exigent un test négatif pour entrer sur leur territoire. Celles qui refusent sont placées en garde à vue à la fin de la période de rétention et souvent condamnées à de lourdes peines de prison pour avoir fait obstacle à leur propre expulsion. Après avoir purgé leur peine, elles sont renvoyées en CRA, et un cycle infernal CRA, prison CRA, etc. s'engage alors pour nombre d'entre elles. Pourtant, ces condamnations sont contraires à la loi. En effet, comme l'ont souligné les associations rassemblées dans l'Observatoire de l'enfermement des étrangers dès le mois de septembre 2020, le refus de se faire tester n'entre pas dans la définition du délit décrit et sanctionné par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers, et le Code civil, comme le Code de la santé publique, interdisent qu'un acte médical, a fortiori invasif, comme c'est le cas des tests Covid, soit pratiqué sans le consentement de la personne. La contrôleuse des lieux de privation de liberté vient de le rappeler. Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale. Toute personne, quelle que soit sa situation, peut librement s'opposer à un acte médical. L'exercice d'une liberté fondamentale ne saurait être qualifié de délit, ni faire l'objet de poursuites et d'emprisonnement ferme. Or, les personnes retenues n'ont pas réellement d'alternative, puisqu'elles doivent choisir entre deux risques tout aussi insupportables pour elles. Être poursuivies pénalement si elles refusent le test, ou être expulsées si elles l'acceptent. Bien plus, le gouvernement vient de faire voter à la sauvette, dans le cadre du projet de loi relative à la gestion de la crise sanitaire, un amendement tendant à contourner les décisions rendues par plusieurs tribunaux qui, sur la base de ces principes, ont refusé de condamner les personnes poursuivies pour ces refus de test. Si elle n'est pas censurée par le Conseil constitutionnel, cette disposition complétera l'article 824.9 du CESEDA en permettant de condamner à une peine de 3 ans de prison tout étranger refusant de se soumettre aux obligations sanitaires nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet. Les associations rassemblées dans l'Observatoire de l'enfermement des étrangers dénoncent cette manœuvre dont les conséquences ne pourront qu'accroître la tension qui prévaut dans les CRA. Elles demandent la fermeture de tous les lieux de détention administrative des personnes étrangères.
Et donc, ce communiqué fait écho à cette action qu'il y a eu au CRA, au centre de rétention administrative de Ménil-Amelot. Ça s'est passé dans la nuit de mercredi 28 au jeudi 29 juillet. Plusieurs prisonniers du CRA de Ménilhamlo ont tenté de s'évader, alors que d'autres affrontaient les keufs et montaient sur les toits des bâtiments du centre. Au moins deux personnes ont réussi à s'évader. Il paraît que l'action avait été coordonnée entre les retenus de plusieurs bâtiments, puisqu'il y a plusieurs bâtiments, le CRA numéro 2, le CRA numéro 3, au point que les flics de la PAF, la police aérienne et frontière, qui c'est eux qui gèrent ces centres, ont paniqué et ont appelé des renforts de la BAC et des CRS. Vers 1h du matin, presque 2h après le début de l'action, les policiers sont malheureusement arrivés à mater la révolte à coups de lacrymo, grenades de désencerclement et matraques. Mais ils n'ont pas pu attraper tous ceux qui s'étaient enfuis, donc courage aux évadés et à toutes les autres. Après les tabassages de la nuit, la répression a continué hier, donc c'était le jeudi 29 juillet. Fouille dans tous les bâtiments, impossible d'avoir un café ou un truc à bouffer, coup de pression. Plusieurs retenus ont été mis en isolement ou transférés dans le bâtiment des femmes. Hier soir, ils ont été transférés, donc c'est la veille, dans le SCRA de Vincennes, trois personnes, et dans celui de Palaiseau. Parmi ces personnes, qui ont été pas mal tabassées pendant la révolte et qui voudraient pouvoir porter plainte. Alors voici, on va vous lire quelques témoignages. D'abord celui d'un prisonnier de Ménilhamlo à propos de la répression qui a suivi la révolte. Tu connais le jeu vidéo Call of Duty ? C'était pareil. J'étais dans une chambre tranquille et d'un coup j'ai vu des flics courir dans les couloirs. Ils ont commencé à arroser tout le monde. Flashball, grenades de désencerclement, lacrymo. Ils ont balancé au moins une cinquantaine de projectiles. On a tout ramassé. On a un sac rempli. Il tirait de loin, de derrière les barrières. J'ai un vieux, là, il a plus de 50 ans, qui s'est pris un projectile dans la figure. Et quand ils ont fini de nous allumer, alors les CRS et d'autres flics sont intervenus. Ils nous ont forcés à sortir dehors, les mains en l'air, tout en nous insultant. Ils ont fouillé les bâtiments, puis les CRS sont restés toute la nuit devant les grilles. Les flics, ils ont le seum contre nous. Ça les a vénères. Beaucoup, ils ont pris que quelques bouteilles d'eau dans la gueule. C'est pas méchant, vu tout ce qu'ils nous ont envoyé. Et c'est rien, vu comment on est traité ici. C'est crade, c'est humide, c'est mal aéré, c'est tellement dégueu qu'on tombe malade. Donc c'est normal que la situation soit tendue. Deuxième témoignage d'une personne qui était dans le bâtiment 2 du crade Ménilhamlo. Hier, l'info a tourné qu'une action collective allait avoir lieu et les mecs du CRA numéro 3 se sont préparés. Vers les coups de 22h30, ils ont commencé à jeter des draps sur les barbelés et à crier. Nous, on a vu qu'au CRA numéro 3, ça commençait donc à crier aussi. Des gens des deux CRA ont sauté sur les toits, il y avait beaucoup de monde sur le toit. En bas, on a essayé de bloquer les flics en leur jetant des trucs dessus, en gueulant. Deux mecs ont réussi à sauter de l'autre côté, mais les autres n'ont pas réussi. C'était galère. En vrai, au fur et à mesure, beaucoup de flics sont venus et les mecs étaient encore sur le toit. Les CRS sont venus en renfort, ils ont jeté des lacrymos et des grenades partout pour nous faire fuir. Mais les flics ne sont pas montés sur le toit, juste ils tiraient sur les mecs. Nous, on était dans la cour, c'était le bordel. Des renforts sont venus, je pense qu'il y avait au moins 100 flics en tout. Ils nous ont alignés et ont contrôlé les cartes de tout le monde. Ils se sont rendus compte de qui manquait, que certains étaient partis. Il y avait des flics partout, il y en a qui étaient dehors, d'autres qui étaient dedans, pas mal de gens se sont blessés sur les barbelés, il y a un mec qui est tombé du toit, mais il n'est pas trop blessé, et lui, ils l'ont attrapé. Après, je ne voyais pas tout, à cause des gaz, il y avait là les flics, mais on était aveuglés, ça tirait dans tous les sens. Après, ils ont tout fouillé, dans chaque cellule, pour chercher les mecs. Certains sont redescendus du toit dans le bloc. Les CRS sont partis vers 1h du matin, on est tous rentrés dans les cellules. J'ai vu des gars qui se faisaient frapper par des flics à la matraque. Il y a des gens qui sont partis à l'hôpital. Ça, je sais pas. Aujourd'hui, j'ai vu un mec qui boitait. Franchement, ils ont tellement violent. Et là, aujourd'hui, il se passe quoi ? Ben, maintenant, ils nous ont fait la misère pour se venger. On peut plus avoir de bouffe en visite. Aujourd'hui, ils ont fermé à 19h. Ils sont venus ce matin fouiller et compter les gens. On pouvait pas acheter des trucs. Les machines étaient bloquées. Et vous avez un peu discuté aujourd'hui. Il y a des mecs qui sont pas d'accord avec l'action parce que il y en a qui ont rien à perdre. Malheureusement, on n'est pas tous dans la même situation ici. Franchement, c'était chaud. C'était comme un film, je te jure. Ça fait quelque temps qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de s'évader parce que c'est le ghetto ici. T'as vu? Ils amènent plein de nouveaux tous les jours. Encore aujourd'hui, ils ont ramené des nouveaux. En vrai, c'est normal que ça pète.
Un autre témoignage d'une personne retenue au grade du Ménil-Amelot. Ce qui s'est passé, c'était le bordel, je jure. Après, on a dû dormir dans les cellules pleines de gaz. Il y avait des gars qui arrivaient même pas à respirer. Là, aujourd'hui, ils nous font trop chier. Ils veulent se venger contre tout le monde pour nous faire payer le prix de la liberté. Je crois que 7 ou 8 personnes se sont fait attraper. Il y en a un qui s'est fait salement tabasser à l'isolement. Il y avait une voiture qui était garée devant l'isolement et qui le surveillait dans le bâtiment des femmes. Ils ont même pas accepté que je lui passe une cigarette, t'imagines ? C'est pas la solution de les priver encore plus de liberté. Franchement, ici, ça va pas. Ça devient de pire en pire. Chaque fois, tu te vois des nouveaux visages, des nouveaux systèmes. Ils te laissent pas te reposer, même quand on est calme. Dans la cellule, ils viennent nous faire chier, nous fouiller. On n'est jamais tranquille ici, c'est du harcèlement. Eux-mêmes, ils font en sorte de te faire péter un plomb. Mais ils nous empêchent de nous défendre. Aujourd'hui, ils ont ramené au moins 5 personnes. Ils en ont mis 3 en isolement. Celui qui s'est fait tabasser, j'ai plus de nouvelles. Son téléphone est éteint. On dirait qu'ils ont tourné un film hier. Je te jure, si on avait vu des caméras, on aurait fait un film. Les gens qui ont été le plus frappés, ils les ont transférés pour leur éviter de porter plainte. Et un autre témoignage du coup du CRA numéro 3. On a voulu monter en haut pour demander nos droits, voir nos enfants, demander la liberté. Ils nous ont gazés, ils nous ont frappés, mais il n'y a pas eu de changement. Ils sont en train de se venger. Moi, je suis allée à l'hôpital. Ils m'ont filé une ordonnance. Mais en arrivant au CRA, ils ont refusé de me donner les médicaments prescrits. J'ai le diabète. Ils ne veulent pas me donner mon traitement. Même en prison, j'avais accès à mon traitement. Là, ils ne m'ont même pas laissé ma machine à insuline. Il y a un gars qui a déposé plainte contre les flics et ils les ont transférés direct. Franchement, ils étaient pleins de bleus. Ils ont transféré ceux qui avaient été le plus frappés hier et qui voulaient porter plainte. Ils effacent les traces, tu vois. Mais ici, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de lumière aux toilettes, c'est un truc de fou. On peut même pas acheter d'eau, on boit l'eau du robinet, alors que moi j'ai des problèmes de reins. Il n'y a rien qui va ici. Moi, je suis en France depuis 40 ans, mais je les connais, je me fais pas d'illusions. J'ai déjà été expulsée en 2006. J'avais ma carte de séjour dans la poche. C'était après les émeutes de banlieue. Ils arrêtaient tous les Noirs et les Arabes. Ils m'ont mis à Vincennes. J'avais ma carte de 10 ans. J'ai fait un recours, mais le lendemain, ils m'ont mis du scotch et bim dans l'avion. J'ai toute ma famille ici. Je devrais pas être ici. J'ai eu 2 fois des cartes de 10 ans. C'est même pas légal que je sois sans papier maintenant. Parce qu'en tout, ils m'ont pas laissé renouveler mon titre et maintenant je suis ici. Mais ça va pas se passer comme ça. On va continuer à lutter et faire des manifestations.
Donc, on voit que les situations en CRA et en prison, c'est pas mieux. Et ce qui est intéressant, eh bien, on va vous lire le communiqué du Génépi qui intervenait dans les prisons. Le communiqué date du 2 août 2021, donc. Il s'intitule « Féministe et anticarcérale tant qu'il le faudra ». Communiqué sur la dissolution du Génépi. Nous, militantes féministes et anticarcérales, faisons le choix de dissoudre l'association Génépi. Nous refusons de continuer à faire perdurer une association qui n'a pas été pensée comme un outil de lutte contre l'enfermement et n'a jamais servi l'intérêt des prisonniers et prisonnières. Le Génépi a été créé par l'État français à la suite des mutineries dans les prisons dans les années 1970, notamment pour calmer les contestations et acheter la paix sociale. Puis, durant 43 ans, il a organisé, en collaboration avec l'administration pénitentiaire, des activités en prison qui ont participé à l'illusion de conditions d'incarcération plus humaines. Il a aussi permis à des étudiants, des étudiantes bourgeoises de grandes écoles, de s'acheter une bonne conscience et de servir leur voyeurisme sous couvert de charité, tout en les formant à devenir des futurs membres du système police-justice-prison. Le Génépi a donc été un des partenaires de l'administration pénitentiaire et il a contribué au maintien de son pouvoir et par ce biais à jouer le jeu de l'État. Nous refusons de continuer à être associés à l'histoire du Génépi et au fait qu'en posant un vernis humanitaire sur la tôle, il a servi à la légitimer et la renforcer, justifiant ainsi toujours plus d'enfermement. Nous refusons de nous contenter d'une critique réformiste de la tôle et de la justice, seule possibilité entendue par l'État et discours dominant formulé par le Génépi pendant plus de 40 ans. Le système police-justice-prison ne peut pas être réformé. Outil du racisme, du capitalisme et du patriarcat, il doit être aboli. Au cours de son histoire, des militants et militantes du Génépi ont tenté de porter une parole de plus en plus critique sur les prisons. mais les discours anticarcéraux sont profondément incompatibles avec une structure associative liée à l'État qui contrôle et muselle les actions. La mainmise de l'État sur les associations est constante, à travers notamment les subventions, utilisées pour les rendre dépendantes et dociles. L'État choisit à qui et pourquoi il donne de l'argent. Ainsi, aucune remise en cause du pouvoir étatique et des systèmes de domination maintenus par ce même pouvoir n'est possible sans risquer de se voir retirer les ressources financières. De plus, la mise en concurrence des associations entre elles pour obtenir des subventions les oblige à se conformer à des codes classistes et racistes pour répondre aux normes attendues et à gérer une charge de travail administratif conséquente. Ce travail est réalisé principalement par des meufs via des contrats de travail précaires, comme les services civiques ou du travail non rémunéré. Le Génépi n'a pas fait exception. Nous refusons, en tant que meufs, que cette structure continue à reposer sur notre exploitation. Nous refusons de continuer à nous plier au système associatif qui entrave les moyens de lutte et qui est utilisé afin de camoufler les violences que l'État produit et veut maintenir en créant un semblant de démocratie. Nous refusons de continuer à rendre des comptes et à nous justifier auprès d'un État qui ne cesse de construire de nouvelles prisons et qui enferme toujours plus. Nous refusons de continuer à lisser notre discours et à faire des concessions pour répondre aux attentes d'institutions racistes, classistes et patriarcales. Notre perspective de lutte ne peut être que révolutionnaire, son but est l'abolition de la tôle et de toutes les formes d'enfermement. En faisant le choix de dissoudre le Génépi, il s'agit pour nous de refuser de faire des compromis sur nos convictions et de pouvoir penser par la suite d'autres moyens de lutte réellement féministes et anticarcéraux. Féministes anticarcérales tant qu'il le faudra, solidarité avec toutes et toutes les prisonniers et prisonnières et crame la tôle.
Et cette dissolution est le fruit d'un long processus de réflexion au sein du Génépi. Et notamment, il y avait une étape un peu cruciale, c'est en 2019, les militants et militantes du Génépi avaient décidé, par le biais d'un vote qui respectait donc les quorums prévus dans leur statut, de mettre fin à l'un des piliers historiques du Génépi, à savoir l'action en détention. Et à l'époque, elle et il expliquaient les raisons de cette décision. Ce vote est le fruit d'une réflexion sur le sens des actions du Génépi. Réflexion portée pendant de nombreuses années par les équipes se succédant jusqu'à l'essoufflement. Il n'est donc pas le reflet de l'opinion trop radicale d'une poignée de militants et militantes du Génépi et ne saurait se réduire à un point de vue. Il s'agit avant tout d'une décision politique qui peut être analysée en parallèle d'une critique historique de l'enfermement et du rôle de la prison dans la société, critique prononcée par les militants et militantes de l'association, mais surtout par les prisonniers et prisonnières, les anciens prisonniers et prisonnières, les proches de détenus, ainsi que certains autres collectifs, certains et certaines sociologues, médecins, etc. Initialement créé par le gouvernement pour en partie acheter la paix sociale dans les prisons à la suite des mutineries, le Génépi a vu le jour en 1976. Dès lors, une centaine d'étudiants et d'étudiantes des grandes écoles ont pu entrer en détention et proposer aux personnes détenues des ateliers scolaires. L'objectif était de sensibiliser les futurs employeurs et chefs d'entreprise à la réinsertion sociale des prisonniers et prisonnières. Cependant, dès 1981, le Génépi affirme ne pas subordonner sa définition de la réinsertion à celle qui transparaît alors dans les politiques publiques, en accord avec Laurent Jacquat, qui rappelait que la réinsertion est un mot générique qui fait partie du langage institutionnel. Depuis, presque toutes les évolutions de la pensée du Génépi sont retracées dans les prises de position de l'association. En 2011, l'identité de l'association évolue. Les génépistes souhaitent d'une part ne pas restreindre les actions de l'association aux seuls ateliers en détention et d'autre part en finir avec un acronyme Groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées, qui ne reflète plus le projet de l'association. Le Génépi change son objet social et milite désormais pour le décloisonnement des institutions carcérales par la circulation des savoirs entre les membres de l'association, la société et les personnes incarcérées. En 2017, dans une optique de réflexion politique sur l'action en détention, le Génépi a déterminé des limites basses au niveau national, constituant un cadre minimum pour ses interventions. Parmi les lignes rouges à ne pas franchir, la présence de dispositifs d'écoute et de vidéosurveillance dans les salles d'atelier, la pratique de fouilles à nu après les ateliers, la présence de listes d'appels ou tout autre système du bâton et de la carotte dans lequel s'inscrirait contre son gré le génépi. Dans les faits, faire respecter ces limites basses s'est révélé pratiquement impossible et nombre de groupes locaux ont passé outre. L'engagement des génépistes devrait aller de pair avec une conscience militante des enjeux politiques liés aux différents lieux d'enfermement. L'appréhension de ces enjeux porte les militants du génépi à proposer une critique radicale de l'enfermement, devenu au fil des années de plus en plus inacceptable pour l'administration pénitentiaire. En 2018, après un long silence, cette dernière décide de rompre la convention qui la liait à l'association, évoquant une baisse du nombre d'heures d'ateliers données en prison et une critique des politiques pénitentiaires de la part des bénévoles du génépi. Il s'agissait surtout d'une sanction politique. C'est suite à une phase de médiatisation intense et grâce à de vastes soutiens que le génépi a pu récupérer une convention. Cette convention reflétait la vision qu'a l'administration pénitentiaire du rôle de l'associatif en prison. En effet, elle semble percevoir le génépi comme un prestataire de services éducatifs permettant d'obtenir une paix sociale relative en détention. Aujourd'hui, travaillons à la transformation sociale, demain prestataire du gouvernement pour l'accompagnement social à moindre coût des politiques néolibérales, écrivaient à l'époque les camarades du syndicat Assaut Solidaire. Avec cette nouvelle convention, l'administration pénitentiaire limitait l'action du génépi au seul cadre scolaire, empêchant tout atelier à vocation politique ou même simplement culturelle en détention. De plus, le respect des limites basses serait encore rendu impossible, étant donné les politiques sécuritaires. Les intervenants acceptent pendant un temps donné de se soumettre à un règlement, acceptent d'être détenus. Ça renvoie à ma propre histoire, quand je refusais que ma famille vienne au parloir, car je refusais que pendant une demi-heure, ma famille soit détenue et se soumette à un règlement auquel elle n'avait pas à se soumettre. Ce que je reproche aux intervenants, c'est ça. Vous venez en prison, vous enfermez avec nous pendant un temps donné, mais vous en sortez très vite, et quand vous en sortez, vous emmenez plus de choses que vous n'en avez amené. Ça, c'était les propos de Daphen Ben Othman, donc un ex-prisonnier à l'époque qui s'exprimait dans le journal L'Envolé. Mettre en œuvre cette convention, si cela était possible, serait un retour en arrière pour le génépi, transformé en partenaire docile, acceptant toute condition de l'administration pénitentiaire, vidée de sa substance critique. Par ailleurs, il faut absolument savoir que l'administration pénitentiaire a souhaité, alors que nous nous apprêtions à signer la nouvelle convention, ajouter une clause relative à la communication du génépi. Cette clause aurait donné à la direction de l'administration pénitentiaire un droit de surveillance sur les prises de parole et de position du génépi et leur aurait facilité la possibilité de mettre un terme de nouveau au partenariat de nombreuses associations. C'est justement parce que le génépi a longtemps cherché à maintenir l'action en détention au prix de nombreuses concessions que nous, militants-militantes, nous sommes retrouvés face à nos contradictions, acceptant par exemple le tri entre les bons et bonnes détenus et celles qui pourraient avoir accès aux ateliers du génépi et les autres. De plus, les motivations personnelles des bénévoles souhaitant entrer en détention, tourisme carcéral, valorisation sur un CV pour l'avenir professionnel, symbolique d'une expérience humanitaire ou humaniste, se heurtent parfois à notre recherche d'une justification politique par l'action en détention. Par ailleurs, l'action en détention est justifiée par l'idée d'un bol d'air qu'apporteraient par leur seule présence les génépistes au sein des murs. C'est parfois vrai, puisque ça nous a été directement rapporté par des personnes enfermées. Pourtant, quel espace peut-on vraiment créer face à la violence des rapports de domination amplifiés par la prison et dans la prison ? Le profond problème de l'action en détention est qu'elle participe à une forme de légitimation de l'enfermement et du système pénal en le recouvrant d'un vernis humanitaire. Achat d'une paix sociale via la formule bénévolat qui permet de pallier le manque de professeurs en prison. La prison condamne des milliers de personnes, damnées et méprisables, à des peines de mort sociale et la prison tue. Dans un contexte sécuritaire, être un prestataire de service n'est pas acceptable. Dans certains cas, l'intervention en prison serait conditionnée à la mise en place d'encore plus d'outils de contrôle sur les personnes qui viennent en atelier. Les personnes détenues en premier lieu, parfois aussi les bénévoles du génépi. En novembre 2018, nous énoncions « la prison se ferme ». mais cela faisait bien longtemps, éternellement, qu'elle était fermée. En réalité et sans jeu de mots, cela faisait plusieurs mois que les relations avec les interlocuteurs et interlocutrices en région de l'administration ne facilitaient pas, voire empêchaient, l'entrée en prison du Génépi, parfois en raison des prises de position soviétiques du Génépi. C'est une citation, donc, de l'administration pénitentiaire. On ne voulait plus de nous, que voulions-nous ? Il était nécessaire de se couper un peu plus de l'institution répression qu'est la prison. Cependant, cela ne veut pas dire que nous nous coupons des prisonniers prisonnières, au contraire. Relayer à la parole des prisonniers prisonnières, la croire, la prendre comme parole politique, n'a jamais été conditionné à une intervention en détention. Notre désir est de travailler à la lutte avec les prisonniers prisonnières, les anciennes prisonniers prisonnières, leurs proches, les collectifs et associations au cœur de cette lutte, de continuer à sensibiliser comme nous l'avons fait par le passé. Voilà, donc c'était un peu un rappel historique de ce qui a mené à cette dissolution du Génépi.
Oui, oui, mais c'est quand même un événement quand même. Hein. En tout cas, on espère qu'on va pouvoir les retrouver et peut-être même ici à l'antenne.
Oui.
Faire des missions de radio, ça aide aussi à diffuser cette parole-là anticarcérale.
C'est certain. Après, c'est un peu sûr que va y avoir un espèce de nouveau Génépi, a priori, puisqu'il y a des anciens et des anciennes du Génépi qui sont regroupés en associations, qu'on dit un peu comprendre les positions politiques, mais que quand même, il fallait intervenir en prison. Bon, ils sont vraiment sur un truc humanitaire. Ils n'ont vraiment rien compris.
Oui, comme ils le disent dans le texte, c'est parce qu'il y a un manque de profs. Il suffit qu'il y ait des enseignants, hein, et des profs et des cours corrects. Et non pas des bénévoles, comme elle dit. En plus, à 90%, elles le mettent au féminin parce qu'elles sont c'est des femmes en grande majorité, là. Mm. Ouais. Donc, on reviendra sûrement à cette histoire.
À l'heure de mettre un siècle de plus au calendrier, bien des pendules ont tourné, mais qu'est-ce qui a changé? De plus en plus d'argent pour de moins en moins de gens. Le grand écart permanent, un fossé de plus en plus grand. On comprend pas comment on a pu en arriver là. On comprend pas.
Put your hands together.
On ne sait toujours pas comment tout ça se terminera. Une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie. On comprend pas comment on a pu en arriver là. On comprend pas.
Raise your voices to the air.
On ne sait toujours pas comment tout ça se terminera. Une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie. L'argent a pris le contrôle de la société. Il s'est glissé dans toutes les mentalités. Et beaucoup courent après ça. Beaucoup pour avoir plus ferait n'importe quoi. Comme il y avait certains ont les poches pleines de billets. Pépé, le portefeuille risque de craquer. Car d'autres chèques et un compte à et un compte est saturé. Pendant ce temps-là, certains ne peuvent même pas manger.
Tu rends pas les prix que t'es préfabriqué. Produit à la chaîne pour nous faire plus consommer. Un émotif, un seul objectif, la rentabilité. Le monde est un terrain de jeu pour les financiers. La monnaie règne sans partage. Pour faire du bénéfice, certains deviennent des sauvages. Avec les cumes aux lèvres et sans se poser des questions. Ils écrasent tout sur leur passage au nom de leurs ambitions.
On comprend pas comment on a pu en arriver là. On comprend pas.
Put your hands together.
On ne sait toujours pas comment tout ça se terminera. Une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie. On comprend pas comment on a pu en arriver là. On comprend pas.
Raise your voices to the air.
On ne sait toujours pas comment tout ça se terminera. Une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie.
Pas terrible comme une orange qu'il disait. Le poète avait tant carré les grises et d'acier. Le gris des industries, aussi celui des cités. De l'air que l'on respire tout au long de l'année. Dans ce décor infernal, cette réalité brutale. Souvent les plus fragiles sont emportés dans la spirale fatale. De la pauvreté, de la souffrance à outrance. Pas la peine d'aller loin, tout ceci se passe en France.
La France. Les riches attendent que les chiens pour pleurer. Et même les mouchoirs font l'argent pour se les payer. Enfin ou en euros, c'est malheureusement pas compliqué. Trop d'inégalités, c'est trop d'inégalités. La jeunesse est vieillie, écrite par la précarité. Contrat à durée de solidarité déterminée. Les hommes d'État baissent les bras en direct à la télé. Ils demandent à des artistes de venir les remplacer.
We the town and tell the people.
Confiance est limitée, méfiez-vous des discours et des orateurs à la télé. Toi tu les connais, eux ils ne sauront jamais qui tu es. Les faiseurs de miracles, c'est dans la Bible, c'est du passé. Voilà pourquoi notre confiance est limitée. Méfiez-vous des discours et des orateurs à la télé. Toi tu les connais, eux ils ne sauront jamais qui tu es. Les faiseurs de miracles, c'est dans la Bible, c'est du passé. On comprend pas comment on a pu en arriver là, on comprend pas. On sait toujours pas comment tout ça se terminera. Une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie. On comprend pas comment on a pu en arriver là, on comprend pas. On sait toujours pas. Ça se termine, une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie. On comprend pas. On sait toujours pas. Une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas sur la bonne voie. On comprend pas. On sait toujours pas. Une chose est sûre.
chercher quand on n'est pas sur la grande voie.
Alors on va continuer avec un témoignage de détenu. C'est une personne qui est enfermée à la maison d'arrêt de Mulhouse. Alors il faut savoir que c'est une prison qui est vieille de 150 ans et qui est vouée à disparaître dans les mois qui viennent. Donc autant on peut imaginer que cette prison est un petit peu laissée à l'abandon. Dans ma cellule, il y a mon lit et les toilettes collées juste à côté, à même pas 30 cm. Il y a de grosses canalisations qui font des bruits tous les jours, tous les soirs. Il y a des cafards, il y a des rats. Le sol est en dos d'âne. Là, les gens que vous entendez crier, c'est parce qu'ils n'en peuvent plus. Ce n'est pas parce qu'ils réclament. Ça va faire 7 jours qu'on n'a pas eu de douche. On n'est pas nombreux à l'isolement. Et il n'y a pas de voyants. Il n'y a rien. On doit crier pour appeler les surveillants. On est dans notre cellule et on a beau appeler le surveillant pendant des heures, c'est à leur bon vouloir. J'ai attrapé des champignons depuis mon incarcération. Pour moi, c'est dû à l'humidité de la cellule. Quand j'enlève mon t-shirt, il est en sueur. Quand je prends un autre t-shirt, il est carrément humide. Dans ma cellule, c'est plein de moisissures. Les champignons se sont vraiment aggravés. Maintenant, ils sont sur tout le corps, ça me démange. Le médecin me dit que ça passera dès que j'irai au soleil. Mais comment ? Je suis à l'isolement, il n'y a pas de soleil. Je suis en cellule 23 heures sur 24, avec seulement une heure de promenade dans la cour du mitard, des petites cages avec des barbelés partout. Vous ne pouvez même pas courir. Vous levez la tête, vous avez des barbelés et du grillage. La fenêtre de la cellule n'est pas très grande, et surtout elle est bien bouchée. Il y a 3 grilles, une toute petite grille très serrée, des barreaux et des petits carrés de barreaux, et après encore des barbelés. On arrive à voir un peu la promenade, mais ce n'est que du béton. L'air ne passe pas, le soleil ne rentre pas, on doit allumer toute la journée, sinon on ne voit pas. Ma vue a baissé depuis que je suis entrée en prison. Je le remarque en regardant la télé, en essayant d'écrire des courriers ou quand j'essaie de lire. Cet hiver, il faisait très très froid. Vous ne pouvez pas imaginer. C'est invivable. Sur moi, j'ai 2 pantalons en laine, 2 paires de chaussettes et 2 pulls. On n'a qu'un robinet. On appuie dessus, c'est de l'eau froide qui coule. Elle est vraiment gelée. Il n'y a pas d'eau chaude. La fenêtre ne se ferme pas. Ça fait 5 mois que je suis là. J'ai déjà demandé plusieurs fois à ce qu'on vienne la réparer. J'ai fait des recours avec mon avocat, mais on nous dit que cette prison va fermer dans 5 ou 6 mois. Ce n'est pas pour autant qu'on doit vivre dans ces conditions. Il y avait une fuite dans les toilettes de la cellule, un trou. L'eau sortait des canalisations. Alors ils ont mis du scotch sur le trou. Ça tient comme du scotch. Ça pue. Même le surveillant, quand il a ouvert la porte pour aller au téléphone, il m'a dit « l'odeur est trop forte ». Ça pue les égouts de Paris. J'ai les toilettes à 30 cm du lit. Je n'arrive pas à dormir tellement l'odeur est forte. C'est un cocktail d'odeurs, canalisation, humidité, moisissure. Je nettoie ma cellule. J'essaie de faire le minimum avec le kit de nettoyage qu'on nous donne. Il y a un balai qui est vraiment pourri de chez pourri, une vieille serpillière, ancienne de chez ancienne. Ils ont fait à peu près tous les bâtiments. Et quand ils ont fini de faire tous les bâtiments, ils atterrissent ici. Ils sont usés. Vous-même n'auriez pas envie de faire le ménage avec. Ça fait une semaine qu'on n'a pas été emmené à la douche. Ça arrive tout le temps. Soit elle ne marche pas, soit on doit attendre 4-5 jours. Que l'eau soit froide, tiède, chaude, ils s'en foutent. La semaine d'avant, on avait de l'eau brûlante de chez brûlante. Quand on leur demande de baisser la température, ils disent qu'il n'y a que ça. Ils disent qu'ils vont réparer depuis que je suis arrivée. On est au rez-de-chaussée et en bas, dehors, il y a des gamelles, des repas, du pain, plein de cochonneries jetées par les fenêtres. Et nous, on voit les rats et les cafards. Parfois, notre seul sujet de conversation, c'est les rats qui passent devant nous. On les entend passer, ça fait des petits bruits de rongeurs. Une nuit, les surveillants ont dû m'évacuer. Il y en avait un dans ma cellule. C'est incompréhensible. On n'est pas en France. Les autres collègues aussi, ils vivent comme des animaux dans leur cellule. Là, à côté, le gars, ça fait 1 heure qu'il essaie d'appeler le surveillant. Et il ne vient que quand il veut. On n'a pas de voyant en cellule. Ma lumière, parfois elle marche, parfois elle ne marche pas. On m'a déjà laissé sans lumière pendant 3 jours. On a un plafonnier. On peut l'éteindre et l'allumer. Et le surveillant aussi de l'autre côté. Parfois, ça ne marche pas dans tout le quartier d'isolement. La nourriture, c'est pareil. On est les derniers de la prison. On est dans la cave, les oubliés. Quand ils viennent, parfois, il n'y a plus de baguettes. Ou il n'y a plus de repas avec de la viande. Donc, ils viennent avec des repas végétariens. Des petits steaks de soja, des petits choux de Bruxelles. Et ça, pendant 1 semaine, midi et soir. Je ne suis pas végétarien. Je ne vous dis pas à quel point j'avais faim. Pour les poubelles, ils passent le soir.
On doit jeter les poubelles de notre cellule à l'extérieur, dans une grosse poubelle. Mais quand ils passent à votre porte, ils sont tellement rapides que vous oubliez de jeter la poubelle. Vous oubliez de poser des questions. Ils ne vous laissent même pas le temps de parler. Même pas le temps de dire quelque chose. C'est une seule poubelle pour tous les détenus. Et elle reste jusqu'à ce qu'elle soit pleine à ras-bord. Dans les couloirs aussi, il y a des rats à cause de ça. Même dans le couloir, ça pue. Pour dormir, j'ai un matelas anti-suicide en plastique dur, une couette et un drap. Les draps, ils disent qu'ils sont lavés toutes les semaines. Mais ça ne vient pas chaque semaine, ils oublient. Et il fait froid, impossible de dormir. Comment vous voulez qu'on réussisse à dormir? Il y a le quartier mineur en face de l'isolement. On les entend crier toute la nuit. Le sommeil n'est pas là, le sommeil c'est impossible. Je me force à dormir, mais je me lève très tôt le matin. À 7 heures, le surveillant vient. Il ouvre la porte, il dit « Ok ». Vous entendez les mineurs de l'autre côté de nos cellules qui commencent à crier. Toi, t'es allongé sur ton lit, tu attends que la gamelle de midi vienne. La gamelle de midi vient. Des fois, tu te prends la tête parce que tu n'as pas de baguette. Des fois, tu te prends la tête parce que tu n'as pas reçu ton dessert. Et c'est comme ça tous les jours. Après, tu rentres en cellule, tu attends. Promenade d'une heure, 1h30. Tu tournes pendant 50 minutes. Tu rentres en cellule vers 14h et tu restes comme ça toute la journée. Tu attends que la gamelle du soir vienne. Elle vient. Tu manges ce que tu peux manger. Et tu regardes la télé. Et tous les jours, ainsi de suite. Pas d'activité, rien du tout. Bloqué en cellule, H24. Ils ont bien mis à disposition une petite salle de sport à l'isolement. Les tapis bleus sont épuisés par la vie. Ça fait 40 ans qu'ils sont là. Il y a un rameur qui est aussi mort par la vie. Et une barre fixe. En cellule, vous pouvez faire des pompes, mais c'est vraiment humide et inconfortable. Et de toute façon, il n'y a pas de douche et que de l'eau froide au robinet. Et il fait froid en Alsace. Les contacts humains, c'est derrière les portes. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est comme des animaux. Les seuls appels que je peux passer, c'est à vous et à mon avocat. Ma famille, je ne l'ai ni vu ni entendu depuis janvier. Vous n'imaginez pas à quel point c'est des conditions de fou. Elle a plus de 100 ans, cette prison. Elle va fermer. Les cellules dans lesquelles on vit, ce ne sont plus des cellules. Elles sont d'un autre temps. Les portes sont encore en bois tout robuste, tout gros, tout dur, avec des loquets rafistolés. Elles vous font peur rien que quand vous les voyez. Faire peur, c'est le but de la prison. Mais pas de vivre comme ça, dans ces conditions. C'est un appel à l'aide, ça, parce que je n'ai pas de mots, je ne sais plus quoi dire. Et ça, c'était donc un témoignage qui a été reçu par l'Observatoire international des prisons.
Et on va poursuivre sur un autre témoignage, tout à fait récent. Alors lui, c'est dans une prison qu'on va dire moderne, hein, Lyon-Corbas. Il est parti en détention provisoire. Et c'est Kevin qui a été arrêté lors d'une charge policière en manifestation. Il est resté 10 jours en détention provisoire, puis a été libéré à son procès. En effet, il a été acquitté de la plupart des faits qui lui étaient reprochés. Donc il raconte son arrivée, donc son expérience très courte au quartier des arrivants à la prison de Lyon-Corbas. Chaque lundi pendant 6 semaines, donc le site va proposer justement son témoignage. Après le verdict, on est ramené dans les geôles du tribunal. Franchement, ça ressemble au mitard. Il y a une chiotte à la turque, entre guillemets. L'endroit où se poser, c'est du béton, avec juste des lattes en bois dur. Ça pue, c'est jamais nettoyé. Il n'y a pas la lumière du jour. Dans les geôles, on est un par cellule. Le premier trajet pour Corbas, pour la prison, c'est la gendarmerie qui l'assurait. J'étais avec tous les condamnés de la journée. La deuxième fois, quand je suis retournée au tribunal pour la demande de libération, c'était l'extraction pénitentiaire qui s'occupait du transfert. On était alors dans des petits box en grillage avec un siège, avec la ceinture, forcément. C'est pas très confortable, parce que quand tu dois mettre la ceinture, tu as les mains près du ventre. Avec nous, à l'arrière, il y a 2 agents de l'extraction pénitentiaire et 2 ou 3 à l'avant. On est arrivé à Corbas vers 10:30, ou même un peu plus tard, et le temps qu'il nous fasse la mise sous écrou, ça a duré jusqu'à presque 1h du matin. Pour la mise sous écrou, tu attends dans des cellules, soit tout seul, soit à 2. Le soir, on est arrivé, on était 6. Il y a 5 cellules, en fait. Chacun se fait fouiller un par un. C'est une fouille à nu, sans fouille rectale poussée. Ils font plus le truc « mets-toi accroupi, tous ». Par contre, tu mets la main contre le mur, il te demande de lever une jambe et de lever une autre. C'est pour s'assurer que tu n'as rien collé sous la plante des pieds et rien non plus dans le sillon interfessier. Moi, je m'attendais à une fouille un peu plus hardcore avec la lampe de poche. D'habitude, j'ai pas de problème à me mettre nu. Mais là, comme c'est forcé, c'est un peu gênant. Ils ont une machine de fou. La seule fois que j'avais entendu parler d'une telle machine, c'était un reportage sur les extraterrestres. Ça parlait d'une base américaine qui scannait les doigts de ses employés à l'entrée. Ça, vraiment, ça prend ton empreinte osseuse. C'est un scan palmaire avec 5 traits pour tes 5 doigts, avec des tiges métalliques. Tu poses ta main dessus et tu appuies. Ça te scanne l'os et ça enregistre l'information biométrique sur ta carte de détenu. On a tous une empreinte osseuse unique, comme pour les empreintes digitales. Si tu veux sortir de la prison, tu es obligé de faire un scan auparavant pour prouver que c'est bien toi et pas un autre détenu qui te ressemble. À la sortie, ils m'ont fait pour désactiver ma carte, mais ils ne m'ont rien fait signer là-dessus. Quand toutes tes affaires sont mises sous scellé, on te donne un paquetage avec 3 t-shirts blancs, 5 slips à ta taille, enfin sauf si tu fais du S, 2 paires de chaussettes, 1 paire de tongs à ta pointure pour éviter qu'il y ait des verrues et des champignons dans les douches partagées. Si tu les perds, tant pis pour toi. Il faut continuer pour avoir de nouvelles. Il y a aussi un carnet avec 50 feuillets, un stylo, 2 enveloppes, 2 timbres, une carte téléphonique préchargée avec 30 euros offert entre guillemets par l'administration. Avec ça, il te donne 5 rouleaux de PQ, feuillets extra fins qu'il faut économiser parce que le PQ, tu dois toi-même le cantiner quand tu n'en as plus. C'est pas fourni à la prison. Au début, tu ne sais pas, tu le cantines pas tout de suite, alors après, tu es obligé d'attendre presque 2 semaines pour recevoir le papier. Quand tu arrives et que tu es indigent, l'administration met sur ton PQ le 20 euros. Indigent, il suffit, c'est simplement que tu n'avais pas d'argent sur toi quand tu arrives. Et donc, il faut un premier cantinage, surtout pour le tabac, mais là, ça, il arrive très vite. Après la mise sous écrou, on t'emmène à ta cellule. Tu te rends compte que tu vas être réparti avec les gens qui sont arrivés en même temps que toi. Ils te répartissent par 2 ou 3 suivant la place. Et c'est là que tu rencontres ton co-détenu. Ça se fait au hasard. Là, tu as un autre paquetage avec un plateau en plastique avec ta vaisselle. En gros, il y a une assiette à soupe, un bol, une fourchette en fer, un couteau à beurre pliable très petit, un verre, 2 draps blancs, une couverture en laine épaisse, une housse de matelas, une tête d'oreiller, un billon de 50 litres de Javel, 50 litres de liquide vaisselle et 50 centilitres, c'est 2 verres, même pas quoi. De liquide vaisselle et de crème à récurie. Après, quand t'en as plus, tu cantines. Pour la toilette, il y a 2 petites serviettes et 2 gants de toilette. Tu n'as pas le droit de faire entrer de grandes étoffes en tissu. Du coup, pour les serviettes, c'est pas plus d'1 mètre de long pour les petites et 1,50 m pour les grandes. Je sais pas si ils ont peur qu'en les nouant, on descende par la grande échelle, je sais pas. L'histoire que ça soit 1 mètre, c'est étrange, quoi. Alors, des draps pour avoir un peu d'intimité dans le coin des WC, des photos au mur, ça tient plutôt bien, ça ressemble à du plâtre liquide. Bon, mon co-détenu avait le lit superposé du bas, il s'était fait un lit à baldaquin. Moi, j'ai fait pareil en haut pour qu'on ait chacun notre intimité. Dans la cellule, il y a une espèce de salle de bain où tu as tout, le sol est légèrement incurvé avec une évacuation au milieu. Il y a donc un chiotte, un lavabo, un miroir. Souvent, le miroir, il n'y en a plus parce que les gens le cassent pour savoir où orienter les yo-yo. Les yo-yo, on rappelle que quand la fenêtre peut s'ouvrir, qu'il y a un grillage, on peut balancer avec un fil d'une fenêtre à l'autre des messages ou des objets, du tabac, etc. Et puis, la douche à pression, le jet d'eau dure maximum 12 à 15 secondes. L'eau était chaude, ça va. Contrairement à d'autres prisons, notamment les plus anciennes, comme on vient de l'entendre sur Mulhouse. À Corbas, donc, c'est une prison moderne. Je ne suis restée qu'au quartier des arrivants. Ils te disent que quand tu arrives, tu vas y rester 2 semaines à cause du Covid. C'est une espèce de quatorzaine. Ils te testent plusieurs fois, le lendemain de ton arrivée. Et au bout de 11 jours, ils ont déterminé dans quel bâtiment tu dois être. Je devais bouger parce qu'il y avait trop de monde aux arrivants. Il y avait des cellules où ils étaient 3, alors qu'elles sont prévues pour 2. Ils ajoutent donc un matelas au sol. C'est du matelas mousse, pas très bien épais, et avec une gaine plastifiée autour. Aux arrivants, c'est un temps d'observation pour l'administration. Ça permet à la chef et aux équipes, en somme, de t'évaluer psychiquement, de voir ton caractère, si tu as envie de travailler, d'être tranquille, de causer des problèmes selon ton profil. Et ils ont tendance alors à te répartir ensuite dans un bâtiment ou un autre. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, comme la durée de ta peine. Le premier jour, tu arrives, super tard du tribunal. Tu fais une nuit légère et le lendemain, tu vois directement la chef des matons et une chef adjointe. S'il y a le temps, tu passes au bloc médical, tu as un entretien avec un psy. Il te demande si tu as des addictions, si tu as envie de te passer la corde au cou ou de suriner ton co-détenu. La personne, le surlendemain, donc le troisième jour, tu vois la SPIP, qui est donc la personne qui s'occupe de ta détention, de comment tu vas pouvoir passer ta peine. Et tu peux qui te demande aussi si tu veux travailler ou étudier, ou que quelqu'un vienne t'expliquer les études que tu peux faire. Donc avant, c'était le Genepi, et maintenant, c'est une autre association qui a repris le rôle d'intervenant en détention. Et on sait pourquoi, puisqu'on vient de vous en parler du Genepi. Voilà en gros comment ça se passe quand tu débarques. Assez vite, tu as fait le tour des 9 mètres carrés de ta cellule. Tu es familier avec l'environnement qui va être le tien pour les prochains temps. En gros, ça se passe comme ça quand tu débarques. Assez vite, tu as fait le tour et te voilà familier. Et il faudra attendre les prochains temps. Alors, donc ça, c'était juste rapidement l'arrivée, on va dire, descriptive, hein, à Lyon-Corbas. Je trouve ça intéressant d'avoir fait la balance entre Lyon-Corbas, une prison moderne, où on vous scanne les os de la main, et Mulhouse, où justement, c'est horrible.
Et bon, à Toulouse, Seyss, c'est pas génial non plus.
Pourtant, c'est moderne.
Oui, pourtant, c'est moderne, mais bon. On vous en avait déjà parlé dans l'émission précédente, qu'il y avait eu un rapport de visite de la prison de Seyss par la contrôleure générale des lieux de privation de liberté. Donc, une visite qui avait été effectuée par 11 contrôleurs du 31 mai au 11 juin 2021 et qui a donné lieu au constat d'un nombre important de dysfonctionnements graves qui permettent de considérer que les conditions de vie des personnes détenues au sein de cet établissement sont indignes. Donc suite à ce constat dressé par la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, elle a émis des recommandations d'urgence qui ont été publiées le 13 juillet dernier. Donc était dénoncée la surpopulation dramatiquement élevée de l'établissement, 186% d'occupation, qui conduit un espace personnel d'1m28 en cellule pour de nombreux détenus, les locaux vétustes où l'hygiène est déplorable et où sont présents de nombreux nuisibles. Était également pointée du doigt l'insuffisance des activités proposées aux détenus, dont le temps passé en cellule est excessif, un climat de violence généralisée, ainsi qu'un accès aux soins non assurés, aux conséquences potentiellement graves pour les patients. Et donc, une semaine après que la contrôleure générale des lieux de privation de liberté ait émis ses recommandations, un détenu, donc on l'appellera MD, qui était incarcéré donc à la maison d'arrêt de Seyss, a saisi la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse d'une demande de remise en liberté. Donc les conditions de détention qu'il dénonce rejoignent donc sans surprise les constats dramatiques de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté. Donc MD est détenu avec 2 autres personnes dans une cellule de 9 mètres carrés. Il dénonce le manque d'hygiène et d'intimité ou encore la présence importante de nuisibles dans les locaux. Et depuis son incarcération le 2 juin, donc il voyait par ailleurs son état de santé gravement s'aggraver. En quelques semaines, il a perdu plus de 15 kilos. Souffrant d'addiction à l'héroïne, donc son arrivée en détention s'est accompagnée d'un sevrage brutal, hein, évidemment sans suivi addictologique, ni médical, ni psychologique. Hein. Et en dépit de nombreux courriers et relances adressés à l'unité sanitaire et de celui adressé au directeur du centre pénitentiaire, la demande de communication de son dossier médical est restée sans réponse à ce jour. Enfin, la bonne nouvelle, c'est qu'on a appris qu'il est sorti hier de détention. Hein, donc, il a quitté la prison de Seyss hier. Donc, la cour d'appel de Toulouse a jugé que les conditions dans lesquelles il était détenu étaient contraires à des conditions de vie digne, de détention digne en prison. Donc, il faut savoir que s'il y a des détenus de Seyss qui nous écoutent, hein, c'est-à-dire que eux aussi peuvent faire un recours, hein, puisque ces conditions, elles touchent tous les détenus, hein, de la maison d'arrêt. Donc, faut pas hésiter du tout à faire appel à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse pour essayer de sortir de là, quoi.
Oui, témoigner, porter plainte, et ça peut arriver justement qu'on soit entendu. L'émission se termine.
Et oui, ça passe vite.
Je clôture. Donc, Bruit de Tôle, c'est terminé. On vous rappelle que vous nous écoutez en direct le jeudi de 19h à 20h. Vous réécoutez l'émission en rediffusion le vendredi de 17h à 18h. L'émission, c'est tous les 15 jours. Donc, on se retrouve dans 15 jours. Je n'ai pas regardé sur le calendrier la date de ce jeudi suivant. Mais normalement, on sera là.
C'est le 19 août.
19 août, d'accord. Donc, on vous retrouve le 19 août. En attendant, vous pouvez nous écrire sur... tout simplement, un petit mot. Là, c'est à Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, 31 400 Toulouse, donc à Bruit de Tôle. Bruit, c'est Bruit au pluriel, de Tôle, T-O-L-E-S. Et l'adresse par mail, c'est justement bruitdetôle@no-log.org. Voilà, donc on vous souhaite beaucoup de courage et surtout... en ces temps de révolte, parce que dehors aussi, hein, y en a qui crient au scandale et qui veulent plus de liberté. Le temps est mauvais des deux côtés. Ça serait bien que toutes ces révoltes et toutes ces colères puissent se réunir pour au moins dénoncer les enfermements et les atteintes aux droits les plus élémentaires de pouvoir se révolter, de pouvoir dire non et de pouvoir exister quand même.
Et quand on voit que c'est quand même un peu chaud l'été, alors que d'habitude c'est un peu le calme plat des mobilisations, on se dit que ça nous annonce une jolie rentrée.
Oui, on espère en tout cas que ça va bouger.
Liberté, c'est toute l'existence, mais les humains ont créé les prisons, les règlements, les lois, les convenances. Les ateliers, les bureaux, les maisons, et les raisons, alors disons, mon vieux copain, la vie est belle. Quand on connaît la liberté, n'attendons plus, partons vers elle. L'air pur est bon pour la santé, partout, si l'on en croit l'histoire, partout. On peut rire et chanter partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Pourquoi faut-il se compliquer la vie pour de l'argent se faire des cheveux, alors qu'on peut vivre à sa fantaisie? Quand on est libre, on fait tout ce qu'on veut, on est heureux selon ses voeux. Mon copain, la vie est douce, vivons ce que vivent les fleurs, ne pas en foutre une secousse, c'est là le secret du bonheur. Partout, si l'on en croit l'histoire, partout, on peut rire et chanter, partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Il ne faut pas songer au mariage quand on est fait pour courir les chemins, en attendant d'être assagi par l'âge. Contentons-nous d'amour sans lendemain, c'est le destin, mon vieux copain. Mon vieux copain, la terre est ronde, les femmes vont de tous côtés. Quand on sera au bout du monde, il sera temps de s'arrêter. Partout, si l'on en croit l'histoire, partout, on peut rire et chanter, partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté.
Ouais. On précaire des smicards du cœur, les boîtes de nuit sont les cimetières.